ce matin, est-ce qu'on peut partir la diapo? Bonjour! Nouvelle année, nouveau départ? Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Il y avait 4-5, je n'ai compté 4-5 qui étaient prêts et prêtes. Avez-vous pris des résolutions pour 2018? Non. Moi, je n'en prends jamais parce que je ne les tiens pas. Cette semaine, j'ai rencontré un professionnel de la santé, puis il m'a posé une question. As-tu pris des résolutions pour 2018? J'ai dit oui. Ah oui, c'est quoi? De mieux connaître celui qui m'a sauvé. Puis il dit, ça marche à chaque année. À chaque année, j'apprends à mieux le connaître. Et ça, bien, automatiquement, ça a ouvert la porte à l'Évangile. Mais je vous propose ce matin, en début de 2018, de prendre un nouveau départ. Et à travers ça, peut-être qu'on va pouvoir prendre de nouvelles résolutions aussi. L'idée d'un nouveau départ dans la vie ne laisse personne indifférent. Et ce nouveau départ, la nouvelle année, semble nous en donner l'occasion. Oublier le passé, recommencer, prendre la décision de mieux faire. Tout cela a l'air si facile que nous prenons solennellement des résolutions avec le ferme espoir de les tenir. Il existe pourtant une manière de prendre un nouveau départ dans la vie, et c'est Dieu lui-même qui nous en offre la possibilité. 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un met sa confiance en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Je trouvais ça intéressant cette semaine, en allant sur le site, j'ai vu que ce verset-là avait été appliqué. J'ai dit, regarde ça, le Seigneur a quand même mis ça là comme une préparation au message de ce matin. Vous savez que mettre sa confiance en Jésus-Christ peut s'appliquer autant pour le salut de notre âme que pour la vie chrétienne. Si quelqu'un n'est pas sauvé ici ce matin, il n'a pas la certitude de son salut, mets ta confiance en Christ. Mets ta confiance dans le salut, dans le sacrifice qu'il a accompli pour toi sur la croix du calvaire. Si vous avez l'assurance de votre salut, mettez votre confiance en lui pour l'année 2018. Dans les deux cas, ça s'applique. Mettre notre confiance en Christ. Vous savez que, en général, le pourcentage est très, très haut. Nous ne connaissons pas vraiment le Seigneur. Oh oui, je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Oh oui, tu l'as rencontré. Tu l'as accepté. Mais est-ce que tu le connais? Faites le lien avec deux personnes qui se fréquentent, ils se rencontrent la première fois, deux fois. Vous l'avez rencontré. À un moment donné, ça sera au mariage, etc. Mais est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la connaissez? Non. Les 5 premières années sont assez démonstratives pour nous montrer qu'on apprend à se connaître. Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. Il faut apprendre à connaître le Seigneur. C'est avec les années qu'on apprend à connaître le Seigneur. On apprend à surmonter les difficultés, à apprendre à marcher par la foi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre de Samuel. Le premier livre de Samuel. Et ce matin, nous allons méditer quelques points marquants du ministère de Samuel, qui se résume en une phrase, « Toute une vie au service de Dieu ». Pourquoi toute une vie au service de Dieu? C'est parce qu'il a commencé tôt, alors qu'il était tout jeune. Samuel était au service de Dieu. Nous allons regarder le premier point, qui est la jeunesse de Samuel. Nous allons passer par-dessus les difficultés rencontrées par Anne, la mère de Samuel. Gilles Poulin nous a déjà parlé là-dessus il y a quelques années, puis je me souviens très bien. C'était bien présenté, je m'en souviens encore. Nous allons nous diriger vers l'exaucement de sa prière. Anne était stérile et demandait un fils à l'Éternel, et chaque année elle se rendait à la maison de l'Éternel et implorait sa grâce. Alors qu'Élie, le juge, pas le prophète, mais le juge Élie, était là, était juge en Israël. Chapitre 1er, et nous allons lire le verset 9, à partir du verset 9. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur son siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. » Et là, Élie a pensé qu'à un moment donné, elle avait pris de la boisson parce qu'elle murmurait à des lèvres. Et elle dit au verset 16, « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, qui veut dire « Dieu a exaucé ». Verset 24. Quand elle l'eut sevré, elle la fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et un autre de vin, et le mena de la maison de l'Éternel. Verset 27, Élie dit, elle dit à Élie, « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Toute sa vie, il sera prêté à l'Éternel. Alors qu'il était encore enfant, il était au service de l'Éternel. Malgré son jeune âge, Samuel faisait déjà partie du personnel du sanctuaire, chapitre 2, verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Samuel était déjà engagé dans le service. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. À retenir, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il est important de nous rappeler deux choses. Samuel fut un homme de foi. C'est pourquoi il a pu être utilisé entre les mains de Dieu. C'est important qu'on se rappelle de cela. La deuxième chose, c'est l'influence de la mère. Avez-vous pensé l'influence que sa mère a eue sur lui? Si vous avez pas pris de résolution, vous pouvez en prendre une. Marquez ça dans votre calepin. L'influence que j'ai sur mes enfants, mes petits-enfants, les neveux, les nièces, les amis, les voisins. L'influence. L'influence d'une mère ici. Rappelons-nous son appel au chapitre 3. Chapitre 3, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Vous savez, c'était le soir. Il était déjà couché, mais la lampe est encore allumée. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel Et il répondit, « Me voici. » Alors, lui, pensant que c'était Élie qui l'appelait, il court vers Élie, il dit, « Me voici. » Élie lui dit, « Retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. » Verset 6, « L'Éternel appelait de nouveau Samuel, et Samuel fait la même chose, il retourne vers Élie, il dit, « Tu m'as appelé. » »« Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Verset 8, « L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. » Et Samuel retourne encore vers Élie. Et Élie lui dit, « Si tu te rappelles, dis ton serviteur, écoute. » Élie était assez spirituel pour comprendre que ça venait de l'Éternel. Verset 9, il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint se présenta, et il l'appela comme les autres fois. Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Premier point à retenir ici, c'est Samuel était à l'écoute de la parole de Dieu. Samuel était à l'écoute de la parole de Dieu. Il avait peut-être 12-13 ans. L'historien Flavius Joseph lui dit que Samuel avait ça 12-13 ans, puis il y en a d'autres qui confirment ça. 12-13-14, ça n'a pas tellement d'importance. Mais un autre point à retenir, c'est que la parole de Dieu était importante pour lui. Verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Il ne lisait pas au hasard. Il lisait tout, et tout était important. Voyez-vous, deux points très importants. Il écoute la parole de Dieu, puis il met la parole de Dieu en pratique. Écrivez ça dans votre calepin, si vous manquez d'idées pour les résolutions de 2018. Être à l'écoute de la parole de Dieu et ne pas laisser tomber à terre, ça veut dire qu'elle n'était pas sans résultat. La parole n'était pas négligée. On peut regarder Samuel, toute une vie au service de Dieu, c'était toute une bénédiction. Pour lui et pour les autres aussi qui sont jeunes et qui, tout jeune, s'engagent pour le Seigneur. Toute une vie au service de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a d'autres personnages qui ont pris de bonnes décisions alors qu'il était très jeune. Daniel, c'est un ado. Il avait 17 ans quand il s'en allait à Babylone. David, imaginez le petit bonhomme, là, le petit blond là, aux yeux bleus, là, qui est allé battre la Goliath, là. C'est un jeune homme, ça. Il avait peut-être 15-16 ans. Mais il avait la foi. Joseph, c'est un ado. Il n'aurait pas passé à travers toutes ces difficultés-là s'il n'avait pas eu la foi qui avait attrapé ses parents, comme on pourrait dire. On a Timothée, c'est un ado, élevé par sa grand-mère, l'influence d'une mère et d'une grand-mère. N'oublions pas que Samuel, c'est un ado, un homme de foi, un homme à l'écoute de la parole de Dieu. La parole avait de l'effet dans sa vie. Nous avons ici des bons points de résolution pour 2018. Marcher par la foi, être à l'écoute de la parole de Dieu, laisser la parole de Dieu transformer nos vies, qu'elle fasse un effet dans notre vie. On va regarder le deuxième point qui est le ministère de Samuel. Chapitre 3, verset 21. Chapitre 3, verset 21. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Voyez-vous, quand Samuel fut devenu jeune homme, tout Israël, de Dan jusqu'à Beersheba, reconnut qu'il était prophète de l'Éternel. Samuel fut juge, prophète, sacrificateur. C'est un des rares personnages de l'Ancien Testament qui a cumulé autant de charges. Ça ne veut pas dire qu'on nous appeler à accumuler autant de chair que ça. Mais si vous êtes encore jeune, soyez prêt à investir votre vie à l'œuvre du Seigneur. Ne soyez pas satisfait de dire, « Moi, je suis chrétien, je suis sauvé, j'assiste aux réunions le dimanche matin, une fois de temps en temps, ou présentement. » Ce n'est pas suffisant. Nous avons un exemple ici, Samuel, un homme actif, un homme persévérant, toute sa vie. Ça ne s'adresse pas seulement aux jeunes, mais ça s'adresse aussi aux plus vieux. Comme il a été dit, il est important, Samuel, tu es un homme de foi. On doit tous développer la foi. Et la foi, ça se commande pas par Internet. C'est en marchant qu'on apprend. On pourrait vous raconter plusieurs scénarios, plusieurs situations qui me sont arrivées. Où est-ce que j'ai appris, c'était quoi, marcher par la foi? Savez-vous quoi? Je doute encore. Parce que tu es en train d'apprendre encore. Toujours en train d'apprendre. On ne va pas reconstituer le contexte historique, mais les chapitres 5 et 6 de 1 Samuel, l'arche de l'Alliance est prise, est amenée chez les Philistins, Israël est dans la désobéissance, et Samuel leur dit de faire ça, ils veulent faire le contraire, en tout cas, ça ne marche pas pendant. Et ça a duré pendant 20 ans. Chapitre 7. Tournez au chapitre 7. Au chapitre 7, les gens de Kiriath-Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel et la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien des temps. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Jearim. 20 ans. 20 ans s'étaient écoulés. Même si la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur cette période de 20 ans, Dieu veillait sur son peuple, puis il préparait quelqu'un pour les sortir de leur situation. Dieu prépare tout. Il a préparé Moïse dans le passé. Maintenant, il a préparé Samuel. Et ce qu'on appelle le réveil de Samuel, c'est un autre sujet qui pourrait être développé à un moment donné. Mais l'Éternel avait mis dans le cœur de ce jeune homme de prendre sa parole au sérieux. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Quand le Seigneur disait de quoi? Difficile, pas difficile, on le fait. Il obéissait. Quel âge avait Samuel d'après vous autres? Rendu là. Il n'y avait pas une calculatrice pour ça. Là. C'est combien? 35. Bon. 35. 12 plus 20, 32, à la fois de 3 ans. 35, voilà. Bon. Entre 35 et 40, ça n'a pas tellement d'importance, mais il était justement dans cette période-là. On va ressortir 4 points importants de son ministère. D'abord, c'est un homme de responsabilité. Samuel exerçait l'autorité et s'efforçait de réformer la réforme, de réformer les mœurs. Le deuxième point, c'était un homme de prière. Il dit, « Je prierai l'Éternel pour vous. » Verset 5. « C'est un homme de justice. » Samuel fut juge pendant toute sa vie. Chapitre 7, verset 15. « Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. » L'avez-vous retenu toute sa vie? Hein? Regardez au chapitre 7, au verset 13, à la fin. L'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Toute sa vie, il a été au service de l'Éternel. Toute sa vie, il a été actif. Toute sa vie, il s'est passé quelque chose. Il a jugé le peuple, il a instruit le peuple, il a toujours bougé. Et c'est un homme organisé aussi. Verset 16, du chapitre 7. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal, de Mitzpah. Il jugeait Israël dans tous les lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il jugeait Israël. Il bâtit un autel à l'Éternel. Chaque année, Samuel faisait une tournée qu'il organisait. Et ce n'était pas une tournée de la routine, c'était une tournée bien définie. Puis regardez à la fin du verset 16, c'est marqué « Il jugeait Israël dans tous ses lieux. » Personne n'était négligé. Il faisait le tour de tout le monde. Il faisait du pastoral. Il faisait tout le tour. Toute sa vie de juge, il a fait ça. Regardons le troisième point qui est la vieillesse de Samuel, chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Bon, la corruption, puis la collusion, puis les enveloppes jaunes, c'est pas d'aujourd'hui. Hein? Verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. » Mais maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Le deux points à retenir ici, c'est son fils Joël. Son fils Joël et ses fils qui ne marchaient point sur ses traces. On va y revenir plus tard, mais allons au chapitre 12, on va regarder le dernier message de Samuel. Chapitre 12, le dernier discours de Samuel. Chapitre 12, verset 1er. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. J'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse, jusqu'à ce jour, on pourrait dire toute sa vie. La fin de ce message, verset 20. Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, car vous avez fait tout cela. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. » 22. « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Vous qui êtes vieux, là, qui vieux, mais commencez à avoir des cheveux blancs. Il y en a des gris, il y en a des blancs, il y en a qui n'ont plus, toutes les couleurs. Pouvez-vous vous dire comme Samuel, je suis vieux, j'ai blanchi. Quelle retraite est-ce que vous vous préparez? Quelle retraite vous préparez-vous? Regardez Samuel, c'est comme une vie à rallonge. Il n'arrête pas. C'est quand même encourageant de savoir que ce que le Seigneur en réserve pour nous, quand, pour nous les grands-parents, ou peu importe l'âge qu'on peut avoir, si on est à la retraite, le Seigneur a quelque chose pour nous autres. Et Samuel, même à la fin de sa vie, avait quelque chose qu'il mettait en application. Et on va regarder sept points de Samuel ici, dans sa vieillesse. Samuel, c'est un homme de prière. On voit ça au verset 23. Loin de moi la pensée de prier, de cesser de prier pour vous. Au verset 23, un homme attaché à la parole, je vous enseignerai. La formation, c'était important pour lui. Samuel, un homme de droiture. Lorsque Saül a fait fausse route, Samuel le reprend parce que c'est un homme de droiture, de fermeté. Regardez chapitre 13, verset 11. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Et il dit au verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu t'avait donné. L'Éternel avait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Vous savez, Samuel n'avait pas une relation émotionnelle avec Saül. Samuel n'avait pas une relation émotionnelle avec quiconque. Il avait une relation spirituelle avec Dieu et il appliquait la parole de Dieu telle qu'il l'entendait et qu'il la mettait en pratique. Il ne la laissait pas tomber à terre. Dieu a dit ça, on fait ça. Aujourd'hui, là, on en voit, il arrive, ouais, mais là, l'autre, qu'est-ce que ça va dire? Il n'aimera pas ça. Si on fait ça, on va en perdre 10 qui vont s'en aller. Si on... Appliquons la parole de Dieu. Samuel, un homme qui a été ferme toute sa vie. Là, je ne parle pas d'appliquer des principes. Là. Je parle d'appliquer la parole. Moi, quand on me pose une question, il y a une réponse. Une réponse, c'est selon ce que le Seigneur nous demande de répondre. Quatrièmement, on peut voir que c'est un homme de fermeté. Alors que Saül n'avait pas exercé le jugement de Dieu contre un roi païen, Samuel, le vieux qui a blanchi, il vint et il dit, « Passe-moi l'épée, va m'en charger. » Chapitre 15, verset 32. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il ne connaissait pas Samuel, lui. Il disait certainement l'amertume de la mort a passé. Hey, c'est un petit vieux là, qui se présente. Là. C'est pas dangereux, ça. Verset 33, Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel, Saül ne l'a pas fait. Je vais le faire, moi. Je vais l'appliquer, la parole. C'est un homme qui mérite d'être repris. On va le reprendre. Samuel, un homme de fermeté. Il fut juge en Israël et il a prononcé la justice jusqu'à la fin. Malgré qu'il a vieilli, il n'a pas faibli dans ses convictions. On peut voir aussi un homme de préoccupation, préoccupé par la relève. Ça ne paraît pas clairement dans le texte, mais Samuel était prophète de l'Éternel. Il s'est préoccupé des générations suivantes. C'est probablement lui qui était le fondateur de l'école des prophètes. Chapitre 19, verset 20. Chapitre 19, verset 20, Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient ayant Samuel à leur tête. Qu'est-ce qu'il faisait là? Samuel était préoccupé par la relève. Un sixième point, c'est un homme préoccupé de communiquer à d'autres son sens de service pour Dieu. Partager ses conséquences, ses compétences, ses connaissances, ce que le Seigneur lui avait donné. C'est une bonne leçon souvent pour les plus vieux qui s'accrochent après leur ministère. Ça cause des frictions, ça fait du ralentissement. On a toujours fait ça comme ça. Mais c'est le temps de changer, c'est le temps d'améliorer, c'est le temps d'avancer. Les jeunes, ils veulent avancer d'une façon différente. Il faut avancer. Et Samuel avait cette pensée-là. Samuel était proche des débutants. C'était aussi un homme désintéressé. On va retourner au chapitre 12. C'est un homme désintéressé. Il sort les revers de sa poche, les revers de ses poches, puis il dit, regardez, il n'y a rien là-dedans. Chapitre 12, verset 3. Et voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour me fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il répondit, tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. un homme désintéressé. Moi, je suis pas, j'ai travaillé toute ma vie pour vous autres, mais c'était pas dans le but de retirer quelque chose. C'était juste pour servir l'Éternel, point à la ligne. Et c'est ça, c'était la vie de Samuel. Samuel mourut, on l'ensevelit dans sa demeure à Rama, et tout Israël le pleura. Toute une vie au service de Dieu. Alors qu'il était jeune, alors qu'il était dans la force de l'âge, alors qu'il était vieux. Quel privilège pour les jeunes d'offrir toute leur vie au service de Dieu. Et nous aussi, bien entendu, pour le temps qui nous reste. Vous savez, le temps qui compte au juste, le temps qui compte au juste, c'est le temps que vous allez investir pour l'éternité. Le temps qui compte, c'est le temps que vous allez investir pour l'éternité. J'ai entendu une petite histoire dernièrement qui m'a fait sourire. C'était quelques amis qui étaient assez à l'aise, là, des millionnaires et des gars un petit peu standards, un peu plus haut que nous autres. Là. À un moment donné, il y en a un du groupe qui est décédé. Alors, les autres l'ont suivi, évidemment. Vous savez, la belle tout bien habillé, puis ils s'en vont. Puis là, c'était à l'époque où est-ce qu'on faisait une fosse, puis on descendait la tombe dans la fosse. Alors, là, ses amis sont là, puis ils le regardent descendre, puis l'un dit à l'autre, il dit, « Je ne sais pas combien il a laissé. Hein? » L'autre à côté, il dit, « Il a tout laissé. » Il a tout laissé. Investissez au ciel. Vous allez aller le retrouver. 1 Pierre 1:4 nous dit, « Notre héritage céleste. » Personne ne peut aller toucher à ça. C'est là qu'il faut investir. Alors qu'on est jeune, alors qu'on est dans la force de l'art ou qu'on soit vieux, investissons pour le Seigneur. Les récompenses vont venir plus tard. Des fois qu'ils viennent tout de suite aussi. On va en avoir un peu plus tard. Avant de terminer, je voudrais revenir sur ces deux points qu'on a laissés en suspens tantôt, au chapitre 8. Son fils Joël. Nous n'aurons pas le temps de parler aujourd'hui, peut-être reviendrons-nous, c'est un autre message, parce que c'est très intéressant de voir la descendance de Joël, lui qui ne marchait pas sur les traces de son père, mais quand on étudie la généalogie de Joël, c'est très intéressant. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra regarder ça. Mais l'autre point qu'on pourrait prendre le temps de regarder, c'est ses fils ne marchèrent point sur ses traces, au chapitre 8, le verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Question troublante souvent. Hein? Samuel qui fut fidèle toute sa vie. Et finalement, on pourrait penser qu'il a copié un peu ce qui est arrivé au prophète Élie, qui lui, ses enfants, étaient dans des beaux, puis il ne les reprenait pas. Est-ce que Samuel a repris ses enfants? On n'a pas de réponse à ça, là, mais on peut se poser des questions. Vous savez que la notion de trace que nous laissons derrière nous, le modèle que nous avons constitué, ça nous incite à la vigilance particulière quant à notre témoignage. Rappelez-vous de ce que nous avons dit. Samuel, serviteur de Dieu et des hommes. 2:26. Serviteur de Dieu et des hommes. Samuel a rendu témoignage devant les hommes, témoignage de sa vie, et ses fils étaient là. Quand Samuel parlait devant tout le monde, ses fils étaient là. Ils l'ont vu marcher. Beaucoup de parents se posent 1000 questions aujourd'hui. On connaît des parents qui ont des enfants qui ont fait complètement fausse route. Il y a une question à vous poser, mais juste une. Est-ce que j'ai laissé la bonne trace? Si je peux répondre devant Dieu en toute honnêteté et transparence, oui, j'ai laissé la bonne trace. Il y a des erreurs qu'on fait dans notre vie, mais on peut les confesser. Quand tu as confessé, à ce moment-là, tu reprends ta trace. Si vous pouvez répondre oui, j'ai laissé la bonne trace, il n'y a aucune culpabilité à porter. Les enfants ont un choix à faire, ils auront à rendre compte à Dieu. Le Seigneur, un jour, leur dira, tu as eu la bonne trace devant toi. Tu as eu le choix. On a tous un choix. Les enfants ont un choix à faire et nous avons tous un choix. Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi, je vais servir l'Éternel. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans une telle situation? C'est de prier et continuer à laisser la bonne trace. Pas se faire de culpabilité avec ça. On fait notre possible pour laisser une bonne trace devant nous autres, puis quand on fait des erreurs, on les avoue, puis on continue à marcher. Puis quand quelqu'un vient me dire, « Ouais, mais t'as fait ça. » Regarde, on a parlé de ça, c'est réglé, c'est mis en arrière. Demande au Seigneur qu'est-ce qu'il en pense. Le Seigneur lui dit, « Quand tu confesses ton péché, il dit, moi, je jette ça dans le fond de la mer. » Puis après ça, il met une pancarte, « Défense de péché. » Mais si vous n'avez pas laissé la bonne trace, si vous n'avez pas laissé la bonne trace, il y a des repentances à faire. Je n'ai pas le temps de vous raconter ce matin ce que j'ai vécu au début de ma vie chrétienne. Moi, un homme qui avait... Il m'a vraiment impressionné, puis ça a marqué ma vie. Un homme qui a voulu réparer pour donner une bonne trace à ses enfants. Mais une chose est certaine, c'est que si vous n'avez pas laissé la bonne trace, allez voir vos enfants, un par un, prenez du temps avec eux autres, puis réglez les choses. Peut-être qu'il y a des repentances à faire. Ça peut être salutaire, ces situations-là. Une chose est certaine, soyez certain de laisser une bonne trace en arrière de vous. Avez-vous pris des résolutions pour 2018? Avez-vous marqué la liste? C'est peut-être le temps d'en prendre une, là. Faites un examen de conscience comme il faut. Et soyez certains de laisser la bonne trace. Non seulement pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour votre famille, vos frères, vos sœurs, vos voisins, vos collègues de travail, vos amis. C'est important de laisser la bonne trace. Nouvelle année, nouveau départ. Que ce soit pour le salut de votre âme, que ce soit pour le début de cette nouvelle année, si vous mettez votre confiance en celui, en lui, vous pourrez démarrer cette nouvelle année et laisser une bonne trace en arrière de vous. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier ce matin pour cet homme exceptionnel, Samuel, qui a donné toute sa vie à ton service. Il y en a d'autres, on pense à l'apôtre Paul, après sa conversion, il a donné toute sa vie. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. Mais là, ce matin, nous autres, on est là, on est en 2018. Il nous reste une période, une partie de notre vie qui n'est pas vécue encore. On ne sait pas comment, on ne sait pas combien de temps. Seigneur, peux-tu parler à nos cœurs ce matin par ta grâce et nous amener à investir le restant de cette vie pour toi? Aide-nous, Seigneur, à se rapprocher de toi, à mieux te connaître afin qu'on puisse marcher par la foi. Et que les autres en soient influencés en arrière de nous, qu'on puisse laisser une bonne trace. On implore ta grâce sur chacun de nous, et c'est une grâce qu'on te demande au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonne année, bonne journée.